6h, 9h, votre matinée à l'info avec Pierre Devineau.
À 7h, le journal d'Hélène Zelani. Bonjour Hélène.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Du football et la joie des supporters de l'équipe d'Algérie. Leur équipe va disputer la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis des souvenirs qui nous font du bien. Il y a un an, la France était sacrée championne du monde. Une fête gâchée par de violents incidents. Les gilets jaunes ont joué les troubles fêtes après le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Et puis si vous faisiez installer une borne de recharge pour voiture électrique dans votre copropriété, le gouvernement propose des aides et la mesure a de plus en plus de succès.
À 8h15, l'interview politique, je recevrai le député européen, ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux.
Europe 1. Les mêmes scènes de liesse à Paris, Lyon, Marseille ou Montpellier. Les supporters de l'équipe de foot d'Algérie ont crié leur joie après la victoire de leur équipe contre le Nigeria, synonyme de qualification pour la finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Pierre Herbulot les a suivis sur les Champs-Élysées.
Un quart d'heure à peine après la fin du match, la place de l'Étoile s'est retrouvée noyée sous un concert de klaxons et de 1-2-3.
Vive l'Algérie !
Idir a sauté dans une voiture à Saint-Denis dès le coup de sifflet final pour venir sur les Champs-Élysées.
Bah, on était chez nous, c'était dans une sandwicherie.
Et là, tout le monde sort dans la rue.
Ah ouais, c'est tout le monde qui défile et tout, c'est normal, c'est normal. Avec tout ce qui se passe au pays et tout, faut qu'on oublie tout ça.
Les drapeaux algériens flottent aux fenêtres des voitures quand ils ne sont pas portés directement sur les épaules. Selim n'a qu'un sujet de conversation, Riyad Mahrez, le buteur algérien.
Mahrez, il m'a fait tomber par terre. Sérieusement, il est sur les deux buts, c'était magnifique.
Un feu d'artifice est improvisé au pied de l'Arc de Triomphe. Mohamed le contemple avec des yeux d'enfant.
On ressent de la joie, de la bonne humeur, tout le monde est content. Franchement, c'est le kiff. 14e feu d'artifice, la direct gagne pour la finale et se qualifie. C'est amazing.
Quelques tensions avec les forces de l'ordre ont mis fin à la fête vers 2h30 du matin. Ce n'est que partie remise pour les supporters qui espèrent revenir en fin de semaine fêter le titre de champion d'Afrique.
Pierre Herbulot et la finale de la CAN. Ce sera en effet vendredi au Caire, Algérie contre Sénégal.
Des supporters de l'Algérie hier soir sur les Champs-Élysées, mais un peu plus tôt, des gilets jaunes avaient investi la plus belle avenue du monde.
Oui, des tensions ont en effet éclaté après le défilé du 14 juillet. Le chef de l'État sifflait, puis ambiance de plus en plus tendue au cours de l'après-midi avec, semble-t-il, des Black Blocs qui ont occupé le haut des Champs-Élysées en se servant de barrières métalliques qui n'avaient pas encore été retirées. Des poubelles ont été incendiées. Les forces de l'ordre ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. Scènes qui ont rappelé de très mauvais souvenirs aux commerçants de l'avenue déjà durement touchés ces derniers mois. Écoutez cet employé d'un restaurant qui critique les failles du dispositif de sécurité.
C'est le jour de la fête nationale, 14 juillet. Enfin, c'est pas normal. Et je pense que les effectifs, comme d'habitude, ont été débordés. Comment se fait-il qu'on n'a pas pu anticiper ça? D'autant plus un 14 juillet, absolument, au niveau de sécurité, je dois être normalement assez élevé. Nous, on est payé au pourcentage, donc c'est une journée qui est censée être payée double. Donc ça fait qu'on va rien gagner. Ça fait 6 mois déjà qu'on est en baisse, nous, de notre salaire, sans compter la direction qui, eux-mêmes aussi, ont une perte de chiffre d'affaires qui est exceptionnelle. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi, à chaque fois, ils se laissent déborder comme ça. C'est incompréhensible en fait.
Voilà, témoignage recueilli par Hélène Terzian. Oui, il y a eu un moment de flottement après la cérémonie du 14 juillet, mais ça s'explique, Emmanuel Cravello du syndicat Policier Alliance.
On a des fonctionnaires de police qui sont en ce qu'on appelle en tenue d'honneur. Donc une fois que la cérémonie est terminée, ces unités-là regagnent leur car pour repartir au service et notamment pour se rechanger pour revenir effectivement renforcer les effectifs sur les Champs-Élysées. Et c'est à ce moment-là que des dizaines d'individus sont intervenus dans les différentes artères autour des Champs-Élysées. Donc on a eu ce moment de flottement, mais qui est tout à fait normal, comme également le fait qu'on n'ait pas pu enlever dans un instant très rapide toutes les barrières qu'il y avait de jalonnement. Comprenez bien qu'on n'enlève pas un dispositif comme ça en 5 minutes. Il y a eu des poubelles brûlées, effectivement des barrières qui ont été jetées sur la rue. Le rétablissement de l'ordre a été au final assez rapide et fait dans les règles, je dirais.
Le secrétaire adjoint du syndicat Alliance en Ile-de-France, au micro Europe 1 de Johanna Chabas. 175 personnes au total ont été arrêtées à Paris. Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National, dénonce, je cite, l'incompétence chronique du ministre de l'Intérieur.
Et on y revient tout à l'heure à 8h15 avec l'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux. Il sera mon invité.
Europe 1, il est 7h04.
C'est justement à cause de la crise des Gilets jaunes que la visite d'Emmanuel Macron en Serbie avait été annulée. C'était en décembre dernier.
Oui, et le chef de l'État est attendu aujourd'hui à Belgrade pour un déplacement de 2 jours dans le pays. Il s'agit, comme l'explique l'Élysée, de renouer les liens distendus avec ce pays candidat à l'entrée dans l'Union européenne. Adrien Beck.
L'image avait fait grand bruit en Serbie. Emmanuel Macron s'emploiera sans doute à la faire oublier. Aux cérémonies du 11 novembre dernier à Paris, le président serbe placé dans une tribune secondaire, son homologue kosovar dans la tribune principale, aux côtés d'Emmanuel Macron, Donald Trump, Vladimir Poutine. Humiliation avait pesté Belgrade, tant les relations entre les deux voisins sont exécrables. L'Élysée reconnaît aujourd'hui un incident. Emmanuel Macron, lui, inaugurera un monument à l'amitié franco-serbe à Belgrade. Le chef de l'État devrait aussi rappeler qu'il tient au retour du dialogue entre Serbie et Kosovo. Là où Emmanuel Macron ne devrait pas contenter son homologue, c'est en revanche sur la question européenne. En plein cœur des Balkans, la Serbie se verrait bien intégrer l'Union sans fermer la porte. Un proche du chef de l'État prévient: quand on voit la difficulté à faire bouger l'Europe à 28, c'est pas le moment de faire entrer un 29e État, une ligne de crête, au moment même où la Chine multiplie les investissements dans les Balkans et tout particulièrement en Serbie.
Adrien Beck. Et puis aux États-Unis, Donald Trump se déchaîne à nouveau sur Twitter. Le président américain critique des femmes démocrates élues au Congrès. Il leur demande de retourner d'où elles viennent. Sortie qualifiée de raciste et xénophobe par les dirigeants démocrates. Il est 7h07 sur Europe 1. Vous écoutez la matinale info de Pierre Devineau.
Et la suite du journal, Hélène Zelani. Développer les voitures électriques, c'est bien. Encore faut-il que les infrastructures suivent.
Et justement, pour développer les bornes de recharge, le gouvernement vient d'annoncer deux mesures. Aide aux collectivités territoriales, mais aussi bornes à moitié prix pour les 3000 premières copropriétés qui s'équipent. L'objectif de la loi d'orientation sur les mobilités, c'est de multiplier ces bornes par 5 d'ici 2022. Aurélien Fleureau s'est rendu dans un immeuble parisien qui a relevé le défi.
Une copropriété de 200 logements, un parking souterrain et c'est Marc qui a essuyé les plâtres il y a 3 ans pour sa voiture hybride rechargeable. Informer le syndic, trouver le bon opérateur et tout s'est mis en place assez rapidement.
Le parking appartient à plusieurs entités, donc il fallait se mettre d'accord, mais bon, aujourd'hui c'est réglé de façon très simple. Les gens viennent me voir pour me parler du système et donc on voit que les gens commencent à réfléchir à l'avenir sur ce type de voiture.
Igor habite dans le même immeuble et c'est en voyant deux bornes déjà installées qu'il s'y est vraiment intéressé, au point de franchir le pas.
Pour les gens qui n'ont pas de véhicule électrique ou hybride et qui ne souhaitent pas en avoir, ça n'engage aucun coût pour eux. Seuls les copropriétaires qui ont un véhicule électrique ou un véhicule hybride payent un forfait.
C'est la société The Plug qui s'est occupée de tout, son fondateur Frédéric Renaudot.
On est aujourd'hui à près de 1000 copropriétés qui ont validé notre système en assemblée générale. Le coût typique, c'est 499 € l'installation de la borne. Nous nous occupons d'aller chercher l'ensemble des subventions qui sont applicables.
Et selon la puissance de charge choisi, les abonnements coûtent en moyenne de 20 à 30 € par mois.
Aurélien Fleureau.
Rien de tel pour bien commencer sa journée que de se rappeler un moment qui nous a fait vibrer comme la victoire de la France en Coupe du Monde.
Et oui, personne ne l'a oublié, c'était il y a tout juste un an. Les Bleus dominaient la Croatie en finale du Mondial à Moscou et décrochaient ainsi leur deuxième étoile, 20 ans après la première. Que s'est-il passé cette année? Comment les footballeurs de l'équipe de France se sont-ils remis de leurs émotions? Ça n'a pas toujours été simple, comme nous le raconte Cyril de la Morinerie.
L'après-Coupe du Monde a débuté dans la liesse avec les célébrations au Stade de France. Tour d'honneur pour les 23 champions du monde, au son de ramener la coupe à la maison de Végédrine. Mais le retour sur le rectangle vert s'est avéré beaucoup plus délicat. Première défaite en novembre aux Pays-Bas 2-0, les Français sont éliminés de la Ligue des Nations, puis un second revers en juin dans le bouillant stade de Konya en Turquie.
Écoutez l'ovation de Konya, les joueurs turcs qui se tombent dans les bras de ce champion du monde s'inclinent 2-0 et c'est tout à fait logique.
Le titre de champion du monde est déjà loin derrière. Il faut aller en Moldavie, en Andorre, dans des stades défraîchis. Une nouvelle histoire démarre, rappelle Didier Deschamps au micro Europe 1 de Sébastien Guyot.
Je ne vais pas vous cacher que rien ne peut être au-dessus d'une finale de Coupe du Monde, mais il y a d'autres objectifs. Il y a toujours des étapes. Ce n'est pas se voir déjà qualifié pour le prochain championnat d'Europe. Il va falloir se qualifier.
Se qualifier pour l'Euro, cela implique de faire des choix forts. Didier Deschamps laisse de côté Adil Rami, Steve Mandanda et ouvre son groupe à une nouvelle génération. Même si les champions du monde sont liés à vie, ils se sont d'ailleurs retrouvés à l'Elysée début juin pour recevoir la Légion d'honneur, comme leur avait promis le président Emmanuel Macron.
Cyril de la Morinerie. C'est un rendez-vous très attendu. Neymar rentre à Paris une semaine après ses coéquipiers. Il doit entamer son programme de reprise avec son club, le PSG. Bilan physique, puis direction le camp des loges. Le tout sur fond de divorce. La semaine dernière, on s'en souvient, le nouveau directeur sportif du club, Leonardo, avait ouvert la porte à un départ. Vous avez peut-être suivi cette incroyable finale de Wimbledon remportée par Novak Djokovic qui a sauvé deux balles de match face à Roger Federer. Rencontre de 5 heures qui nous a fait battre les cœurs.
Il y a les Ferrero Roche d'or et Roger Federer, c'est pas exactement pareil.
Et je fais des rimes, je sais pas si vous avez remarqué. Oui. Et puis dans le Tour de France, Julien Alaphilippe est toujours maillot jaune. L'étape d'hier a été remportée par le Sud-Africain Impey, aujourd'hui 10e étape entre Saint-Flour et Albi.
Ouais, à suivre avec Marguerite Lefebvre dans le journal du Tour à 8h35. Merci Hélène Zélani.